Donc il y aura trois séquences aujourd'hui, chaque fois à peu près 30 minutes. Donc on va dire dans cette première séquence, on va déployer le terrain. Et donc on propose de repartir des questions qui étaient écrites sur les post-it, de voir ensemble, de les organiser et d'essayer de voir par quel bout on commence pour dérouler cette pelote et faire notre potage autour des questions du foncier et du paysage. Donc, je vous propose de les lire. S'il y en a qui veulent se lever pour voir mieux et puis ensuite qu'on puisse être plusieurs à classer, à reclasser ça, il n'y a pas de souci, au contraire. Donc, les questions sur du foncier, il y avait. Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est pas trop moyen. Peut-être essayer de se rapprocher un petit peu. Faire un. Les futurs jardins partagés. Plutôt une vision prospective. Garantir et protéger les jardins en les inscrivant sur le PLU, donc le plan local d'urbanisme, des utopies protégées. Comment pérenniser administrativement parlant une occupation d'un espace public par un jardin partagé? Imposons la préservation des terres agricoles. Les personnes qui souhaitent des parcelles individuelles ont-elles droit de cité dans les jardins partagés? Donc là, c'est plutôt la question peut-être de l'appropriation des espaces de jardin. Comment pérenniser l'action dans le temps? À qui peuvent s'adresser un groupement de jardiniers volontaires pour trouver un terrain, qu'il soit privé ou public? Comment pérenniser un jardin partagé? Après, il y avait autour de la question jardin ou béton, donc des grandes orientations. Y a-t-il une forme optimale de l'immeuble pour y faire vivre un jardin d'immeuble? Béton ou jardin partagé ou pédagogique, comment faire? À quand les potagers sur les toits? Le jardin doit s'inviter partout. Donc le jardin doit s'inviter de partout, peu importe qu'on lui donne le droit ou pas. Donc la question du squat, on va dire. Planter des fleurs sur les trottoirs pour adoucir le quotidien. Béton, bitume ou jardin partagé, il faut choisir. Peut-être la question des antagonismes d'objectifs entre on fait des logements ou on fait des jardins. Ça colle peut-être un peu, mais voilà. Des jardins éphémères ou des jardins déplaçables. Vivre à la campagne avec les avantages et les commodités de la ville, il faut choisir Auchan ou le jardin. Auchan, A-U-C-H-A-N. Alors après, il y avait des questions plus sur des formes d'intervention sur l'espace public. Donc, existe-t-il des green guérillas sur Lyon? Quelles actions elles-mêmes? Y a-t-il des green guérillas réussies en Rhône-Alpes? Rétablir le besoin d'intervenir concrètement sur l'espace public, se réhabituer aux interventions simples et naturelles des habitants, passer dans les rues avec une bouette par exemple. Et puis, autour du paysage, il y avait comment réensemencer la ville, partager ce lieu avec la nature. Donc la question de la nature dans la ville. Point de vue, l'alliance de la nature dans un milieu urbain. Assurer des continuités entre les jardins. Faire des corridors verts en les inscrivant dans les documents de planification. C'est-à-dire assister aux réunions de révision des plans locaux d'urbanisme. Les jardins partagés peuvent-ils lutter contre l'artificialisation du territoire? Et le jardin partagé, une autre idée du paysage. Donc, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce que ça vous inspire déjà pour commencer?
Je trouve qu'on parle de deux lieux différents. On parle de la ville en elle-même, en parlant des jardins partagés sur les toits, ouais. Au niveau de le fonctionnement des trottoirs, etc. Et on parle des zones périurbaines, la zone agricole est en quelque sorte en danger face aux constructions des maires de Paris.
Donc deux problématiques différentes, ouais, en fait. On aurait deux problématiques. Donc on pourrait je tutoie tout le monde à nouveau. Voilà. Ta proposition, c'est de les répartir déjà en fonction du type de foncier dont on parle.
Ouais,
c'est
déjà, ça. Ouais, voilà. Je rebondis avec un même enjeu. Quelque part, on a un foncier qui soit déjà urbain, pas encore urbain. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que on a une ressource qui est le sol et qu'est-ce qu'on en fait de cette ressource? Pas dans l'urbain ou pas dans l'urbain, il y a ce choix. De préciosité de la ressource sol et qu'est-ce qu'on y met en, dans le débat d'aujourd'hui.
Enfin, oui, oui.
Comment tu le. En un mot, ça serait une question de choix politique. Oui, une question d'usage en fait du sol.
Il y a une concurrence d'usage.
Concurrence d'usage du sol. Une ressource précieuse, c'est ça, enfin rare.
Ouais, voilà, une ressource. C'est la préservation d'un espace vital. On parle de la préservation d'un espace vital qui sert à nous alimenter.
Je viens pas d'oser parce que j'ai un statut un peu différent. Moi, je suis un professionnel, je travaille dans un bureau d'études en environnement et je travaille sur toutes ces questions de, quand on fait des écoquartiers, des parcs, etc. Donc, j'ai pas obligatoirement le regard de l'usager.
C'est ça qui est intéressant.
Mais voilà. Moi, ça pose la question de foncerie publique, espace public et quels sont justement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un espace public, comment il est ouvert et comment on fait que ce n'est pas que des jardins.
Et la privatisation
de l'espace public. Et le risque de privatisation et la concurrence des usages. Là, quoi. Si alors, on est sur du foncier public, on ne peut pas avoir le même regard que sur une parcelle privative.
Je rebondis sur ce que vous dites, parce que justement j'avais fait un tout petit sur voilà, est-ce que le jardin partagé c'est un espace public ou un espace privé. C'est une question que voilà, je pense qu'il y a d'autres interprétations aussi.
Ouais,
voilà.
Voilà.
Il peut être, voilà, non mais c'est vrai, il peut être.
Mais ça se trouve aussi là-bas.
Il peut voilà, se traduire par plusieurs. Enfin, se lire de différentes manières. Et ça rejoint la question de la partage, parce qu'en termes de gestion de l'espace public, enfin, de destination, on va dire, de l'espace public, ça va rejoindre les questions de planification urbaine et de plan local d'urbanisme. Le jardin partagé peut se traduire par différents axes, soit il est considéré comme un espace vert, avec un pourcentage d'espace vert qui est en milieu urbain, et aussi un espace public. De trouver la place en fait entre la société comme un espace vert ou un espace public dans un quartier, dans un territoire.
Mais les espaces verts sont des espaces publics?
Oui, non. Mais dans la planification urbaine, ça ne se fait pas de la même façon en fait. Il y a
d'accord.
Un espace public dans le développement d'un quartier, et puis aussi un pourcentage de plus pour des aspects environnementaux, un pourcentage
vert
d'espaces verts qui peut être de l'ornemental, qui peut être voilà, sur
d'accord.
Une manière, un mur végétal, alors ça ne sera pas forcément considéré comme un espace
Est-ce que ça va si je mets qu'il y a la question de la planification des espaces publics et la planification des espaces verts sur des lieux privés, enfin sur des espaces privés, non,
c'est plus de dire que le jardin il aura un rôle sur deux aspects en fait, intégré à l'espace public.
D'accord.
Et pour répondre à un pourcentage vert acceptable, c'est ce que nous demande le PLU. En fait, les planifications urbaines, c'est ça en fait. Il y a un pourcentage d'espace vert dès qu'on aménage un équipement public, dès qu'on construit un logement, il y a toujours un pourcentage d'espace vert. Et du coup, s'il n'est pas considéré comme un espace public, voilà, est-ce que le jardin partagé peut aussi avoir un rôle là-dedans?
Trop hostile,
ah oui. Oh, non.
bon, on verra après.
On va. Vous voulez qu'on les fasse toutes une?
C'est à peu près ce que je...
C'est ce qu'on a dit. Ouf. Jardin partagé, autre fonction et usage que le jardinage, comment partager avec les autres habitants?
Ça pose la question de l'espace public. Si c'est un espace public, d'accord, on ne peut pas faire que du jardin dans un espace public.
Est-ce que c'est... là, c'est peut-être un peu court alors? Oui. Concurrence des usages. Concurrence des usages aussi, ça suffit.
Autre, en gros, espace public, ce n'est pas, dans un espace public, il y a plein de fonctions. Et ça ne peut pas être que la fonction de jardinage. Donc, c'est espace public, quelle autre fonction que du jardinage, en fait?
Moi, c'est ça, on voit l'ouverture du jardin. C'est-à-dire
et à l'ouverture,
partagé,
et comment un jardin
est ouvert aux habitants, dans quelle mesure.
Et comment on partage cet espace
public. Alors qu'il est un espace privat, semi-privatisé.
Il pourrait l'être.
Ouais, c'est parce que c'est un espace semi-privatisé.
Qui peut être considéré comme privé. Je ne sais pas, ça vous paraît clair. Donc c'est des associations de vente responsables, alors que ça appartient, le terrain appartient à une commune.
En fait, le problème, c'est que ça peut être considéré comme une privatisation de l'espace public.
Tout à fait. D'accord.
Et ça l'est.
C'est peut-être à débattre. Ok, alors les autres post-it qui sont arrivés, c'est la terre, droit de propriété vers droit d'usage. Donc je pense que ça,
ça va dans notre sens.
Et l'autre, c'est comment un maraîcher collectif devrait ou pourrait lancer un projet de maraîchage collectif. Ah oui, non, je pense que c'est plutôt comment un maraîcher professionnel, un privé, pourrait lancer un projet de maraîchage collectif. C'est pas trop nous, ça. Hein.
Non. On expulse.
Vous le recyclerez dans un autre atelier à la deuxième.
Au deuxième rang.
Donc.
Encore que. Trop non plus dans le milieu du jardin partagé, mais il y a un conflit qui va se poser assez vite. C'est que...
Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort ou venir au milieu?
Non, je ne vois pas ce que je veux. Il y a un conflit qui va arriver assez vite avec les agriculteurs. Je pense quand même qu'il faudrait qu'il y ait terrain d'entente entre les gens plus ou moins qui vont dans le grand pour faire des jardins collectifs et la production. Parce que vous avez plein de choses qui est fausse. C'est-à-dire que le jardin partagé, aujourd'hui, ça ne produit même pas un pourcent de la nourriture d'une ville. Alors que les agriculteurs, eux, de périphérie, qui défendent leurs terres en périphérie, alors attention, quand on dit la ville, c'est la périphérie. Hein. On est ici, on est dans le Grand Lyon, et en plus, le Grand Lyon va devenir ville européenne en agrandissant ses compétences. Donc la périphérie est la ville. Quand on pense à ça, il faut penser aux gens qui produisent l'agriculture pour nourrir la ville. Et c'est très différent de ce que vous êtes souvent ici, les agriculteurs, les jardins.
Donc vous pensez qu'il y a une concurrence?
Ça, c'est de la planification.
Vous arrivez à un moment, moi je travaille sur la zone est de Lyon, là, entre Vaux-en-Velin, Décines-les-Yeux. Il va y avoir un moment où, si vous vous mettez à faire des jardins partagés qui produisent des sacs aux gens, il y a un jour, il y a un agriculteur d'à côté, un riverain. Je vais dire, mais attendez, on est où là?
Ça, c'est dans l'hypothèse alors, que la production, elle soit.
On travaille ensemble sur des expériences qui ont été faites au nord-américain, au Québec, où il y a des fermes urbaines en ville, où des gens produisent des salades et des carottes au prix qu'on peut vendre à Auchan, même prix. Il n'y a plus de déplacements, il n'y a plus de CO2, et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui vont s'intéresser à l'agriculture urbaine de façon économique et professionnelle. Je voudrais que... Mais...
C'est une dimension plus économique, une concurrence économique, en fait.
Et ça rebondit sur la question pour laquelle j'étais venu là, c'est sur les documents d'urbanisme. Ils disent, oui, le PLU. Oui, attendez, dans le PLU, est-ce qu'on met... on a le droit, dans cette zone, de faire des sacs de légumes.
Partager,
ne produit pas son
autonomie. Alors, pourquoi les gens se rassemblent? pour un jardin partagé, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, c'est suffisant. Parce que les gens ont envie de se rencontrer en fait. C'est la raison principale. Et donc le jardinage est un moyen de se rencontrer. Et dans l'aménagement des jardins partagés.
Venez chez nous.
Non, mais dans l'aménagement d'un jardin partagé, justement, parce qu'on arrive avec. En parlant du. Du terme de l'espace public, c'est qu'il y a une grande partie qui n'est pas cultivée, mais qui est là pour se rencontrer. On va dire un lieu convivial avant tout, un lieu où on va mettre une table, où on va peut-être mettre un barbecue, où il y a des gens vont faire autre chose que jardiner. Et là, le jardin partagé, il a aussi cette fonction-là.
Donc ça pourrait être, ce conflit ou cette concurrence potentielle, elle peut être résolue par le fait qu'il n'y a pas les mêmes objectifs en fait. Il y a un objectif économique dans un côté et plutôt un objectif social dans l'autre.
Voilà, Belay, les parcelles cultivées sont, si on prend un pourcentage, sont très minimes, ce n'est même pas 10% du jardin. Parce qu'après, il y a des parcelles qui sont laissées en friche, il y a des parcelles qui sont pour les enfants qui jouent.
Même si il y a des jardins, parce que je porte un projet de jardin avec une visée hein, économique, même si effectivement on pourrait être considéré à la limite en concurrence directe avec les agriculteurs locaux, je crois qu'il faut sortir de cette opposition-là et dire nous ce à quoi on s'oppose, c'est l'agriculture conventionnelle qui est souvent très très loin, qui est en Île-de-France, en Picardie, etc. Et on préfère manger des salades du coin sans rentrer forcément en concurrence avec.
C'est plus complémentaire. En fait.
C'est plus complémentaire.
C'est vrai que cette question, enfin, juste pour faire un aparté, cette question, elle s'est beaucoup soulevée avec les jardins de Cocagne, qui pour le coup ont une activité vraiment de production. Et finalement, il y a eu des débats assez importants avec la profession agricole et les jardins de Cocagne. Et finalement, l'idée, c'était de dire quand même, pour l'instant, la production locale, elle reste quand même faible par rapport aux besoins. Et donc, c'était plus une complémentarité et un travail ensemble qu'une vraie concurrence. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire ça, que ça, c'est, il n'y a pas forcément d'opposition, mais de la complémentarité? Est-ce que ça a traduit et l'aspect lien social aussi?
Sur les PLU de vos communes, les jardins sont dans quel zonage, si vous savez?
Naturel, non?
En fait, c'est un peu compliqué, c'était, en fait, c'était un parc. C'était une zone où il y avait une zone d'intérêt, mais qui a été transformée. Là, apparemment, pour les être logés pour une grosse partie pour faire du logement social.
Ah oui, donc c'est une zone urbanisée.
Sur le cas de l'Antilles, la parcelle est classée en zone de loisirs.
Donc, en fait,
il y a. Elle n'est pas concurrentielle, l'espace agricole.
Non, mais de toute façon, c'est formellement interdit de vendre la production. Alors, peut-être une fois de temps en temps, quand on fait une soupe, voilà.
C'est les 6 activités.
Le propriétaire, c'est la commune.
Oui, mais...
L'association a le droit de vendre de façon exceptionnelle 6 fois par an la production.
C'est la loi sur les associations, voilà, qui permet de faire.
C'est vraiment exceptionnel.
Le fait que ce soit en zone de loisirs, c'est cohérent à l'objet, l'objectif des jardins partagés.
Et par rapport à la planification urbaine, c'est vrai que c'est... Alors, à la question, pour des raisons aussi...
Réalité,
quand on voit le nombre de personnes mal logées, quand les agents de l'espace public, il y a un semi-privatisé, il y a un semi qui est baradé pour 2 mètres carrés, un habitat. Sauf. Alors, si je résume, c'est la question des zonages, en fait, de la cohérence entre le zonage et l'activité. Donc, en zone urbaine, ça serait pas tellement cohérent de faire des jardins, enfin, en zone, je veux dire, en ZFU, quoi, enfin, zone à urbaniser. Par contre, plutôt zone de loisirs, ça. Non, je résume mal.
C'est vrai que les jardins, oui, c'est cohérent dans une zone de loisirs en espace rural, bien que, comme le disait monsieur, un jour ou l'autre, vu qu'il y a une pression foncière très forte, il y aura de toute façon un conflit d'usage avec les agriculteurs qui voudront peut-être se réapproprier ces zones. Et en zone urbaine, l'espace public, ça gêne parce que il y en a qui ont besoin de logement et ça prend cet espace.
Je pense il y a besoin d'espace public aussi, hein, mais oui, bien sûr.
Le risque que vous signalez par rapport aux agriculteurs, il est quasiment nul. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils perdent constamment du terrain. Donc, ils ne vont pas en regagner. Ça m'étonnerait. Et notamment parce qu'on est, c'est quand même... Parce que même l'Antilly, ça ne supporte pas. Enfin, petit à petit, vous serez agglomération complètement. Donc je pense que la question des espaces de respiration, de loisirs, etc., ça, je pense qu'elle restera traitée de manière forte dans les PLU. La place pour des activités comme ça sera sans doute préservée. Enfin, moi, je ne vois pas le risque comme ça.
Est-ce qu'on peut parler de...
Non, je voudrais dire que le risque, il existe, il n'est pas d'actualité. Mais vous avez Détroit, Montréal, vous avez des zones d'activité qui sont mortes, dans lesquelles on défonce le bitume et on recultive. Et la crise continue à venir. On peut très bien imaginer que des agriculteurs de périphérie, et moi je connais des maraîchers à Caluire qui sont en demande de terre, et si la crise immobilière est telle, ils reprendront sur les villes des terres. Et quand on pense aujourd'hui aux gens qui ne se nourrissent pas, on peut se demander s'il n'y a pas une agriculture urbaine sociale. La télévision, les trucs du cœur, là, de notre comique, là.
Les Restos du cœur.
Eh bien, ils commencent à avoir besoin, ils n'en ont plus assez, plus personne ne donne, et ils, en région parisienne, ils recultivent des zones d'activité, des endroits où on avait imaginé qu'on mettrait des petites entreprises, des PME, finalement elles ne viennent pas, et bien ils les cultivent, alors c'est temporaire, hein, sur les coups, on n'est pas encore dans une autonomie alimentaire assurée. Il y a un laboratoire à Lyon qui s'appelle l'ISARA, il travaille sur quantifier ce qu'il faudrait comme terre pour rendre l'agglomération à 50-60% autonomie.
Ah, juste avant. Après, vous ne pouvez pas changer si vous voulez, mais bon. Juste par rapport à la question de la concurrence entre le logement et les zones de jardin, il y a une question qui est corollaire à ça, c'est la question de l'habitabilité de la ville. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une ville qui est uniquement faite d'immeubles et qu'il y a des ratios. Donc, ça peut être un moyen aussi, si on veut densifier, il faut aussi laisser des espaces de respiration.
Oui,
terminer par rapport à ce que disait monsieur, je trouve que du coup, ça relance une question que j'ai posée sur un post-it, c'est est-ce que les jardins partagés peuvent donner une nouvelle forme d'agriculture?
C'est bon, ma question.
Oui.
C'est dans l'air du temps, mais est-ce que ça peut amener à faire des fermes d'urbains?
C'est ça aussi envisager peut-être une place des jardins partagés dans le champ d'agriculture. Parce que celui qui est déjà en fonction de l'agriculture, dans les zones périurbaines où il y a des trous, c'est l'idée de laisser des maïs, du maïs. Alors qu'on pourrait mettre du maraîchage par exemple et développer de la nourriture à dire.
Bon, je crois que vous changez. S'il y en a qui sont vraiment accro, vous pouvez rester, mais voilà.
Bon courage.
Mais on a déjà dit quand c'est.
Alors. Si c'est viré de mon atelier.
Tu m'étonnes, je vais prendre un café.
Je me suis fait virer de mon atelier.
10 minutes pour changer.
Ah, 10 minutes pour changer.
Ah, 10 minutes pour changer. Ça, 10 minutes, c'est un vélo. Je ramachis. Ça, ça t'en verra.